L'affaire Bessarabot, chapitre 2. Tandis que de nombreux inspecteurs de la police judiciaire se livraient à une enquête sur les événements qui avaient précédé le drame, ainsi que sur le passé de la victime et des deux inculpés, M. le juge d'instruction Bonin procédait dès le lendemain à un nouvel interrogatoire de Mlle Paul Jacques. En présence de l'avocat qu'elle avait choisi, maître Raymond Hubert, il lui notifiait qu'elle était inculpée, de même que sa mère, d'homicide commis avec préméditation sur la personne de son beau-père. Après avoir affirmé de nouveau qu'elle n'était pour rien dans le meurtre de M. Bessarabot, dominant la douleur qui l'étreignait, elle remettait au magistrat un mémoire qu'elle avait écrit au crayon durant sa détention dans les locaux du Quai des Orfèvres. D'une écriture sèche et régulière, Mlle Paolo Jacques relatait son enfance passée à Mexico, les années vécues auprès de son père, années toutes de bonheur et de tendresse, puis elle décrivait les vexations et les peines, toutes les misères journalières qu'elle prétendait avoir subies de la part de l'homme avec qui sa mère s'était remariée, après le décès de M. Jacques. Avant de confronter Mlle Paul Jacques avec sa mère, M. Bonin voulait avoir en sa possession les renseignements qu'allaient lui apporter les enquêteurs de la police judiciaire. Il ne tardait pas à recevoir de fort intéressants et qui semblaient établir que, contrairement aux déclarations de Mme Bessarabot, le meurtre de son second mari avait été prémédité depuis longtemps. Voici d'abord ce que le magistrat apprenait sur la personnalité de la principale inculpée. Appartenant à une très bonne famille lyonnaise qui avait subi jadis de grands revers de fortune, elle avait dû se placer comme institutrice dans un pensionnat de jeunes filles très connu de la ville de Lyon. C'était alors une femme grande, blonde, d'une réelle beauté, mais d'un tempérament un peu exalté. Elle collaborait à plusieurs publications lyonnaises et en particulier au journal mondain et littéraire Le Tout Lyon. Elle avait quitté sa ville natale pour se rendre au Mexique, où, ainsi que nous l'avons dit plus haut, elle avait connu son premier mari. Depuis très longtemps, elle n'avait plus que de lointaines relations avec ses parents et ses élèves de Lyon, pour lesquels l'annonce de son crime avait été une douloureuse surprise. Quant à M. Jacques, qui était directeur d'un grand magasin de nouveautés de la place de Mexico, en 1913, ayant réalisé une belle fortune, il confiait son magasin à un parent et venait habiter Paris, rue de Sèvres, 107, dans un bel appartement d'une maison moderne où, 6 mois auparavant, sa femme l'avait précédé avec ses 2 enfants. À peine arrivée, Madame Jacques se faisait remarquer par sa conduite bizarre, s'affichant avec un jeune homme d'environ 20 ans et se faisant accompagner par sa fille aînée dans les sorties avec son amant qu'elle amenait jusqu'à côté du domicile conjugal dans un restaurant de la rue de Sèvres. Paul, à cette époque, était déjà très joli, mais excentrique, légère et même provocante, tandis que sa jeune sœur, modeste et réservée, et ne voulait pas accepter la vie que menaient sa mère et sa sœur. Au début de juin 1913, M. Jacques rejoignait sa famille à Paris. C'était un homme très gai, très aimable et qui paraissait jouir d'une excellente santé. Mais à peine 2 mois s'étaient-ils écoulés qu'il devenait littéralement neurasthénique et se plaignait de douleurs d'estomac qui, affirmait-il, le faisaient cruellement souffrir. Sans doute s'était-il aperçu de la conduite de sa femme, qui depuis son retour ne s'affichait plus avec son beau jeune homme, mais n'en continuait pas moins de jeter l'argent par les fenêtres, à un tel point que M. Jacques en arriva à envisager des mesures de protection sur l'avenir de ses filles, c'est-à-dire la nécessité de déshériter sa femme. Or, le 28 mars 1914, à 7 heures du matin, Lorsque la femme de chambre, Georgette, entra dans le cabinet de travail où Monsieur Jacques avait son lit, elle fut stupéfaite de le trouver assis devant son bureau, la tempe droite trouée d'une balle. Un caillot de sang provenant de la bouche était tombé entre les jambes du mort et, chose curieuse, sur ce caillot était posé le revolver qui, logiquement, étant donné la posture du corps de la tête et du bras droit, aurait dû se trouver à droite du suicidé. On se précipita, voisins, concierges firent irruption dans le cabinet de travail, et Madame Jacques, très surexcitée, leur dit textuellement « Voyez-le, il s'est tué, et il était tout seul. » Le commissaire de police interrogea longuement la veuve en raison des bruits qui couraient, mais une lettre du suicidé arrêta toute enquête. Le corps de M. Jacques fut inhumé dans un caveau de famille à Barcelonnette, dans les Basses-Pyrénées, et en juillet 1914, Madame Jacques et ses filles retournèrent au Mexique pour y liquider une situation qui leur laissait une fortune de plusieurs centaines de mille francs. C'est alors, en 1915, que la veuve devint un jour Madame Bessarabeau, et le nouveau ménage, rentré en France, vint habiter l'appartement du square Lamourière, où devait se dérouler le drame. Meublé avec goût et confortable, cet appartement était mal entretenu, la mère et la fille se désintéressant complètement des soins domestiques. En effet, elles sortaient toutes deux beaucoup, toujours vêtues à la dernière mode. Elles ne songeaient qu'à voir du monde, à s'amuser, et négligeaient complètement leur intérieur. Bien qu'il n'eût pas demandé mieux que d'être un homme de foyer, M. Bessarabeau n'y rentrait que le plus tard possible, écœuré du désordre et même de la malpropreté qui régnait au logis. On sait combien à Paris il est facile à une femme élégante et belle, ayant de l'aplomb et du bagou, de se faire des relations nombreuses et de se faufiler même dans les milieux sélects qui devraient bien parfois montrer un peu plus de prudence. C'est ainsi que Mme Bessarabeau avait réussi à se faire admettre dans certains salons littéraires et même aristocratique, où elle chercha à se faire passer pour une grande femme de lettres. Pour répondre aux politesses dont elle avait été l'objet, elle donna une grande réunion littéraire chez elle, et obtint même qu'un historien connu y fit une conférence sur Madame de Pompadour. Mais ses invités, choqués des allures libres et de la conversation plutôt hardie de Madame Bessarabeau, décidèrent de ne pas pousser plus loin leur rapport avec une personne qui leur paraissait d'une éducation si étrange. La romancière dut se rabattre sur des relations moins reluisantes, choisies parmi cette bohème élégante et ce monde de métèques qui ne fait pas précisément l'orgueil de notre capitale. Malgré tout, elle put encore se donner l'illusion qu'elle était quelque chose en littérature. Mais ses réceptions, ses toilettes, les frais d'impression de ses livres, car aucun éditeur ne s'était laissé tenter par celle qui signait ses élucubrations Hera Myrtle, eurent vite fait d'entamer fortement la fortune qu'elle tenait de son premier mari. Se trouvant à court, elle s'adressa au second, qui d'abord se montra généreux et régla sans sourciller des dettes assez élevées. Mais il se lassa vite de ce petit jeu, qui n'eut pas tardé, bien qu'il gagnât fort bien sa vie, à le mener à la ruine. Alors ce furent des scènes dont la dernière devait coûter la vie au malheureux négociant. Afin de bien se pénétrer de l'état d'esprit de l'inculpé, M. Bourdin avait tenu, sinon à lire toutes ses œuvres, mais tout au moins à se rendre compte de leurs tendances. C'est ainsi qu'il apprit qu'Hera Myrtle, dont l'ambition ne connaissait pas de limite, avait fait 5 pièces de théâtre, dont l'une, Après la voile, avaient été représentés les 4 et 5 mars 1910 au Théâtre des Arts par les soins de la Société des Anséistes. Qu'elle avait publié des essais sur Taine, Auguste Comte et Schopenhauer, une étude sur les Amazones à travers les âges, un volume de poésie intitulé Fleurs d'ombre, dont les premières pages, consacrées à des souvenirs de couvent, n'étaient pas dénuées de charme et de fraîcheur, mais où l'on découvrait ensuite une pièce assez bizarre intitulée Mon premier amant, où la future Madame Bessarabeau se révélait naïade, fougueuse et faisait songer à certaines chansons de Bilitis. La femme à la malle avait fait également paraître 3 romans, Du bagne à l'Éden, Leur proie et L'oublia. Leur prote était une sorte d'autobiographie dans laquelle Madame Bessarabeau nous exhibait son moi dès les premiers jours de sa prime enfance. Considérant comme un fait inouï d'avoir vécu à la campagne et comme un événement mondial d'avoir été en pension au couvent, nous dit Maurice Prax, elle se jugeait tout de suite avec autorité. J'ai été celle que l'on n'a jamais pu oublier quand on l'a vraiment connue, écrivait-elle. Et plus loin, mes amis m'accusent parfois d'avoir toujours recherché une situation compliquée et torturante. Et ceci, il m'a suffi d'accorder une préférence, une attention, certain intérêt à un homme pour désigner complètement l'adoration des femmes. Enfin, ces lignes qui ont la circonstance pour être une tragique saveur. Au lendemain de mon mariage, mon respectueux mari vint me trouver dans ma chambre où je préparais mes malles pour un long et mystérieux voyage qui devait aboutir en Égypte ou à Soudra, mon rêve. Maurescent est encore honoré époux, me déclara tout net et paternellement, cependant, que je ne savais pas faire une malle et qu'il allait m'enseigner cet art. Quant à Lupita, cet autre roman que Ramirtel considérait modestement comme son chef-d'œuvre et qu'elle avait dédié à son frère, c'était l'histoire d'une jeune Mexicaine, mal écrite et de sentiments faux, mais où surtout le juge d'instruction puisse se faire une idée exacte de la psychologie de sa cliente, ce fut en lisant la préface qu'elle écrivit pour l'étude sur le féminisme de l'Antiquité de Madame Claire d'Evelyn. Là, elle se révélait en effet une féministe exaspérée, voyant en l'homme l'ennemi implacable de la femme qui lui avait pris sa place dans la société et dans la famille. Elle affirmait qu'il fallait le combattre sans répit et sans pitié. Monsieur Bonin put se rendre compte ainsi que Madame Bessarabeau, dite Hera Myrtel, ne devait pas être une épouse avec laquelle il fait bon vivre. Continuant son enquête sur son passé, Monsieur Bonin ne tardait pas à apprendre que, tandis que Monsieur Jacques, son premier mari, qui passait pour un excellent homme sur tous les rapports, était aimé et estimé de tout le voisinage, sa femme, au contraire, faisait la plus désagréable impression sur tous. Sa conduite envers son mari n'était pas déjà sans provoquer une réelle réprobation. Quand M. Jacques s'absentait pour quelques jours, il avait la mauvaise surprise de constater au retour la disparition de plusieurs de ses meubles et d'objets auxquels il tenait particulièrement. Pendant son absence, Madame Jacques s'en allait solliciter les concierges des alentours pour leur vendre des meubles et des objets d'art. C'était, disait-elle, parce que son mari la privait d'argent. Parfois, elle faisait d'importants achats dans les magasins. Monsieur Jacques, toujours bon, soldait la note, et le lendemain, sa femme reportait la marchandise en se faisant rembourser l'argent. M. Bonin pouvait lire également dans le petit journal du 8 août 1920 l'interview suivante d'un ami intime de Madame Bessar, M. Bessarabeau. C'est un crime d'argent et rien d'autre, affirmait-il à notre confrère. Jamais cette femme n'a eu la moindre affection pour son mari. Par contre, elle n'a jamais cessé de lui demander ou de lui prendre de l'argent pour le perdre à la bourse. De plus, la nuit, elle fouillait dans les poches de son mari pour y prendre l'argent qui s'y trouvait, et à chaque instant, le malheureux constatait des soustractions importantes. Bien mieux, elle allait jusqu'à vendre les vêtements de son mari pour se procurer de l'argent. À ce sujet, je me rappelle avoir rencontré tout récemment Bessarabo, qui allait partir à Boulogne-sur-Mer et qui me dit: Tu sais pas le tour qu'elle vient de me jouer? Je m'étais fait faire deux complets et un par-dessus. Ben, elle les a vendus. J'ai plus un vêtement pour partir en voyage. Et lorsque je lui ai demandé ce qu'elle en avait fait, elle m'a répondu qu'on avait cambriolé l'appartement. Autre fait. La veille même du crime, elle était allée au bureau de son mari pour lui soutirer 1 000 francs. Cela avait été l'objet d'une dispute violente, à la suite de laquelle Bessarabo l'avait mise à la porte. La vérité est qu'elle savait que mon pauvre ami était en train de traiter une affaire de stock et qu'il devait pour cela verser 200 000 francs et que dans ce but il devait se rendre à Boulogne. Il n'y a pas de doute, elle l'a tué pour lui voler cet argent. Elle ne l'a pas eu car il était déjà versé. Elle a alors pris ce qu'elle a trouvé, 4 ou 5 000 francs que son mari avait sur lui le soir. La preuve qu'elle s'est emparée de cet argent, c'est que le portefeuille a disparu, en disant qu'il voulait l'entendre que son mari lui avait mangé sa dot et lui refusait tout argent, mais elle mentait encore. Mais Sarabot, qui aurait tout sacrifié pour avoir la paix dans son ménage, ne savait pas refuser de l'argent. Et je l'ai vu plusieurs fois aller en emprunter pour le donner à des amis qui étaient gênés. Notre confrère demandant à son interlocuteur: Croyez-vous à une complicité plus grande qu'elle ne l'avoue de la part de Mademoiselle Jacques? Sans hésiter, Monsieur L répliquait: Oui, car la mère n'agissait que sur les conseils de sa fille. Et il ajoutait: Oh, le crime était d'ailleurs prémédité depuis longtemps. Et j'ai la conviction que si on a forcé Bessarabo à acheter la villa de Montmorency, c'est dans l'espoir de pouvoir l'y tuer en toute sécurité et ensuite faire disparaître le cadavre sans laisser aucune trace. Mais Bessarabo n'a jamais voulu y aller. Il avait trop peur de sa femme pour consentir à s'isoler ainsi. Il me l'a dit plus d'une fois. Nous nous devons, conformément à la plus stricte impartialité que nous nous sommes imposée, de faire entendre un son de cloche différent donné par un autre ami de M. Bessarabot et qui montrait l'affaire sous un jour tout différent. Madame Bessarabot, déclarait-il à un rédacteur du Petit Parisien, est une femme remarquable et douée d'une grande intelligence. C'est de plus un écrivain érudit et d'un talent très au-dessus de la moyenne. J'ai connu son mari longtemps avant leur mariage et il me présenta sa femme dès leur arrivée en France. Chaque vendredi, dans son salon du Square La Bruyère, Madame Bessarabot donnait des conférences qu'un petit cercle d'amis ne comprenant que des gens de lettres, pour la plupart très connus, suivaient très assidûment. À mon avis, si Madame Bessarabot n'avait pas compliqué son crime avec l'histoire de la malle, elle obtiendrait l'acquittement. Je m'étonne qu'une femme aussi intelligente ait pu croire qu'elle pourrait ainsi cacher sa faute. Je ne crois pas à la préméditation. Elle a tué son mari, c'est un fait. Mais pour moi, dans une grille de désespoir et de découragement. Bessarabot est un ami de 15 ans. Je l'ai connu au cercle, l'escrime dont il était membre. Oh, j'habitais à l'époque rue de la Rochefoucauld et nous ronronnions ensemble de la rue Volnay. Il me racontait toutes ses fredaines et Dieu sait si elles étaient nombreuses. Son argent, Il le gaspillait, non plus avec une, mais avec plusieurs maîtresses. La dernière en date, et qui fut un peu la cause de ce triste dénouement, portait le nom de Galgi. Il avait enlevé à un antiquaire du quartier de la Chaussée-d'Antin. Une lettre de cette femme fut interceptée et remise à Madame Bessarabot. Il faut vous dire que cette dernière, souffrant des infidélités de son mari, aggravait son chagrin par le fait que, faisant suivre le volage, elle savait heure par heure l'emploi du temps de ce dernier. Elle en apprenait de belles. Ce qui, dès le début, avait profondément peiné Madame Bessarabot, c'est que son fiancé lui avait caché l'être de religion israélite. L'union fut en effet bénie à l'église et Bessarabot avait accompli tous les actes religieux nécessaires pour le mariage catholique. Certes, Madame Bessarabot ne nourrit aucune antipathie pour la religion juive. Elle constata seulement un manque de franchise de la part de son mari, ce qui l'affectait beaucoup, comme aussi le fait que Bessarabot s'était marié sous un faux nom. Là, la suite, à maintes reprises, elle voulut divorcer. Mais le divorce aurait fait découvrir l'acte frauduleux. Elle voulait éviter à son mari le scandale d'une condamnation. Madame de Sarrabeau dit vrai quand elle prétend que ce dernier a dilapidé avec d'autres femmes une bonne partie de sa dot. Mais que l'a-t-elle entendu? Bessarabot était sur le point, elle le savait, de réussir deux affaires d'1 million chacune. Il aurait remboursé sa femme et bien d'autres encore, dont je fais partie, qui lui ont avancé des sommes et des sommes. Que voulez-vous? C'était un viveur. Il avait débuté comme associé avec son frère qui, à ce moment, s'occupait d'une affaire de perles. Récemment, Bessarabot opéra sur les stocks anglais. C'était un homme d'affaires remarquable, mais je vous le répète, il gaspillait tous ses bénéfices hors de son ménage. Néanmoins, il était fier de sa femme. Pendant la guerre, cette dernière fit deux voyages mouvementés au Mexique, où chaque fois elle faillit être la victime des insurgés. Elle avait là-bas de gros intérêts dans des entreprises commerciales et dans une compagnie d'assurance qu'avait dirigée son premier mari, M. Jacques. Elle s'était rendue là-bas en pleine guerre civile pour aller chercher de l'argent dont avait besoin son mari. Quant à Paulette, jeune fille d'une réelle beauté, elle reçut une éducation parfaite. C'est une musicienne hors ligne. Écœurée de la conduite de son beau-père, elle voulut rester près de sa mère, uniquement pour être sa confidente et sa consolatrice. Et c'est pour cela qu'elle a refusé de se marier. D'autre part, le secrétaire particulier de M. Bessarabot fournissait les renseignements suivants au même journal. Madame Bessarabot avait des griefs justifiés ou non contre son mari. Elle prétendait que celui-ci la trompait et qu'il dépensait son argent avec des maîtresses. Elle vint samedi me dire que mon patron était parti brusquement pour Nancy et me montra une lettre que M. Bessarabot lui avait soi-disant envoyée. Oh, je n'eus pas de mal à reconnaître qu'elle avait cherché, mais en vain, à imiter la signature de mon patron. Elle prétendait que celui-ci avait réclamé d'elle certains documents qu'il voulait mettre à l'abri et qui consistaient en des papiers concernant l'espionnage, auxquels M. Sarabot s'était soi-disant livré pendant la guerre. Et fort loyalement, le secrétaire ajoutait: Oh, je dois reconnaître que certains griefs formulés par Madame Bessarabot sont exacts et qu'en tout cas, mon patron avait une maîtresse. Mais ses amis prétendent que c'est à la suite de la vie d'enfer que sa femme lui faisait mener, qu'il avait cherché, en dehors de son foyer, le bonheur et la tendresse qu'il n'y trouvait pas. Madame Bessarabot, d'autre part, affirma, dit-on, qu'une somme de 800 000 francs montant de sa dot a été dilapidée par son mari et qu'elle a eu, d'autre part, à défendre sa fille contre les entreprises de M. Bessarabot. Mais le plus me prononcer sur de telles accusations qui ne m'étaient pas possible de contrôler. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que M. Bessarabot, qui récemment a payé 200 000 francs de vin traite, ne paraissait nullement gêné. Enfin, on peut s'étonner que sa femme ait préféré commettre un tel crime, suivi d'un acte aussi cynique, plutôt que de divorcer et de porter plainte contre lui. Enfin, M. Bonnet apprenait que Bessarabot fréquentait assez régulièrement un restaurant de la rue Herdier, qu'il déjeunait fréquemment seul et parfois en compagnie de personnes avec lesquelles il était en affaires. Le gérant de cet établissement déclarait ceci: Oh, monsieur Bessarabot était un client du déjeuner. Bon client, certes, mais ne faisant pas de dépenses exagérées pour ses repas. Il ne venait chez nous pour le dîner que lorsqu'il avait des rendez-vous d'affaires. L'impression que je peux avoir de lui, c'est qu'il devait être un homme sérieux, vivant bien mais modérément. Ses repas à la carte, un hors-d'œuvre, un plat, très souvent un œuf, un légume, un dessert, peu ou presque pas de vin, un café. La dernière fois que je vis M. Bessarabot, c'était le jeudi 29 juillet. Après avoir, selon sa coutume, sommairement déjeuné, avant de se rendre à son cabinet d'affaires, il me dit, comme je le reconduisais à la porte: Au revoir, à demain. Dieu, qu'il me tarde d'avoir 2 jours de plus. Je suis éreinté, je vais prendre mes vacances, j'en ai besoin. Le repos au milieu des miens va me sembler bon. Et le lendemain, vendredi, je ne le vis pas. Le surlendemain, samedi, deux personnes avec lesquelles il avait rendez-vous vinrent déjeuner et s'étonnèrent de son absence. Mais que fait donc Bessarabot, ne cessait-elle de dire. Hélas, ce malheureux ne vint pas. Ce n'est que ces jours derniers que j'ai appris l'affreux drame. Et le gérant, apitoyé, concluait: Le pauvre diable, qui voulait être plus vieux de 3 jours pour aller se reposer à la campagne. Il appartenait à l'éminent magistrat que M. Bonin de démêler la vérité au milieu de toutes ces contradictions. Il allait s'y employer avec toute l'habileté, le tact et la probité professionnelle qui le caractérisent. Tout d'abord, il se rendait compte qu'il était impossible de concilier la première version que Madame Bessarabot avait donnée de son crime avec les résultats de l'autopsie pratiquée à Nancy par le docteur Paul. En effet, si le coup de feu avait été tiré au cours d'une sorte de corps à corps, il est peu vraisemblable que la balle eût suivi le trajet rectiligne à travers le crâne, entrant par la tempe droite, parcourant la matière cérébrale et brisant les os de l'oreille gauche. Il était certain, d'autre part, que le coup avait été tiré à bout portant, à 4 cm de la tempe, ainsi qu'en témoigne la déflagration de la poudre qui a laissé des traces à l'orifice de la blessure. M. Bonin était donc en droit d'en conclure que M. Bessarabot avait été tué pendant son sommeil, tandis que sa tête reposait sur le côté gauche. Il eût été possible d'étayer cette présomption d'une preuve palpable s'il avait eu entre les mains la tête d'oreiller, mais on sait que l'inculpé avait brûlé cette pièce à conviction dans sa villa de Montmorency. Monsieur de Bonin se demandait ensuite si Madame Bessarabot, en plus de sa fille, n'avait pas eu un autre complice. En effet, la façon dont le cadavre avait été plié et ficelé dans la malle semblait indiquer qu'une aide quelconque avait été apportée aux deux femmes par une tierce personne, très probablement par un homme. Le défunt était grand et fort, et malgré toute la vigueur qu'on voulait bien leur accorder, Madame et Mademoiselle Bessarabot n'auraient pas pu à elles seules accomplir leur sinistre besogne telle qu'elles l'avaient accomplie. Mais quel pouvait bien être ce complice? Là commençait la difficulté. Madame Bessarabot recevait beaucoup. Elle donnait fréquemment des conférences suivies de sauteries, de séances de spiritisme. Quelques-uns ajoutaient des réunions d'un autre caractère où s'occupait, disait-on, de magie noire. Quoi qu'il en soit, le nombre de connaissances de la meurtrière était assez élevé et on ne possédait que peu d'indications sur elle. Seuls les familiers très intimes pouvaient éclairer les enquêteurs sur les relations habituelles de Madame Bessarabot et limiter le champ des recherches. C'était de ce côté que M. Bonnin allait porter ses investigations. Une troisième question enfin se posait à son esprit. Madame Bessarabot n'a-t-elle pas tué aussi son premier mari? Le juge se rappelait alors que la femme de lettres lui avait déclaré, lors de son premier interrogatoire, que M. Jacques avait laissé une lettre dans laquelle il exprimait sa décision d'en finir avec la vie, et que cette lettre devait se trouver dans les dossiers de la préfecture de police. En attendant, M. Bonin faisait faire une enquête auprès de la concierge dans l'immeuble où s'était suicidé M. Jacques. Et voici ce qu'elle déclarait. C'est dans les premiers mois de 1914 que M. Jacques mourut. Cette mort tragique nous sembla d'autant plus suspecte qu'immédiatement deux versions différentes en furent fournies. Ce jour-là, le bruit se répandit dans la maison que le négociant venait de se suicider d'un coup de revolver dans la tempe droite. Nul n'avait perçu le bruit de la détonation. Vers 7 h 30 du matin, la domestique des époux Jacques, une jeune fille de 18 ans, décédée depuis, pénétrait dans ma loge et me racontait que son maître s'était tué pendant la nuit. Je l'ai trouvé inanimé, me dit-elle, tout à l'heure, comme j'entrais dans le salon où il couchait pour lui apporter son déjeuner. Il était étendu sur le canapé qui lui servait de lit, le sang coulait à flots de sa tempe droite. Mais peu après, la jeune fille faisait un autre récit. Ce n'était plus elle qui avait découvert le suicide. Madame, disait-elle, qui était dans une pièce voisine du salon, et était occupée à préparer des malles, m'appela. Monsieur, me dit-elle, se suicider cette nuit. Je viens de trouver le cadavre dans le salon. Allez prévenir la concierge. Dans la lettre qu'il a écrite, il annonçait sa détermination d'en finir avec la vie et en donne les causes. Et la concierge poursuivait. Alors le commissaire intervint, il procéda à ses constatations, entendit le médecin qui soignait M. Jacques ainsi que la domestique, et comme le praticien affirma que son client était en proie à une maladie d'estomac qui lui causait d'atroces souffrances, il en conclut que le négociant avait voulu en finir. Mais le commissaire ne sut pas que la jeune bonne avait donné les deux versions différentes que je viens de vous dire. Il ne sut pas que la mésintelligence régnait entre les deux époux. Il ne sut pas non plus que M. Jacques devait avoir un secret à confier. C'est un souvenir qui m'est personnel. Ce n'est guère revenu à l'esprit que ces jours-ci, en lisant dans les journaux le crime qu'a commis M. Jacques, devenu Madame Bessarabot. Et l'honorable personne précisait. La veille même de sa mort, M. Jacques m'appela et me dit « Êtes-vous discrète? » Sur un geste affirmatif de ma part, il poursuivit « Eh bien, je vais vous. » Mais à ce moment, je fus appelé au téléphone et, comme la communication se prolongeait, mon locataire partit en me disant « Oh, je vous verrai demain. » Et le lendemain, il était mort. Depuis, j'ai pensé qu'en ce moment, M. Jacques ne songeait nullement à se suicider, puis il remettait au jour suivant la confidence qu'il voulait me faire. Madame Jacques, cependant, se basant sur la lettre qu'avait laissée son mari, attribuait ce suicide non seulement aux souffrances intolérables que lui causait sa maladie, mais au désespoir de se voir acculé à la faillite. Tel fut le témoignage d'une femme qui avait vu, qui avait retenu et paraissait très sincère. Or, M. Bornin ne tarda pas à apprendre que la situation de M. Jacques n'était nullement compromise au moment de son suicide. Le juge d'instruction jugea donc qu'il était indispensable de rechercher si réellement M. Jacques s'était bien donné la mort. Il y avait bien une lettre de lui qu'il établissait, mais cette lettre d'abord, il fallait la retrouver. Et, détail étrange, M. Bessarabot lui aussi avait écrit une lettre dans laquelle il demandait à sa femme de lui envoyer à Nancy la fameuse malle. Or, cette lettre était un faux. Tout cela n'était-il pas singulièrement troublant? Enfin, l'attitude de Madame Jacques après le décès tragique de son mari n'avait pas été précisément celle d'une femme qui a un réel chagrin. Sur le paquebot où elle s'était embarquée pour le Mexique, quelques jours après la fin de son premier mari, elle avait eu une attitude qui ne fut pas sans scandaliser les passagers, jouant du piano, dansant, s'amusant. On l'avait même surnommée la veuve joyeuse. Une fois en possession de cette documentation qui présentait pour lui un si grand intérêt, M. Bonin interrogeait ou faisait interroger plusieurs familiers de la maison qui étaient à même de lui donner des renseignements intéressants, non seulement sur la meurtrière, mais sur ses faits et gestes la veille, le jour et le lendemain du crime. Deux d'entre eux lui donnaient des détails fort intéressants. L'un, M. Georges Pillemant, filleul de guerre de la femme de lettres, démobilisé depuis peu, déclarait ceci: Madame Sarabot s'est toujours montrée très bonne et très aimable envers moi. Elle m'avait admis dans son intimité, je l'ai accompagnée à plusieurs reprises, ainsi que sa fille, à sa villa de Montmorency. Les jours des réceptions, des conférences, elle me retenait presque toujours avec quelques intimes, et le jour du crime, je l'ai quittée assez tard. Dans quel état d'esprit, interrogea le magistrat, avez-vous trouvé Madame Bessarabot dans l'après-midi qui a précédé la nuit du drame? Oh, je n'ai rien remarqué de spécial, déclarait le témoin. J'ai trouvé Madame Bessarabot très normale. Je l'ai rencontrée le lundi suivant, elle était en automobile. En me voyant, elle a fait arrêter le chauffeur et m'a fait monter à côté d'elle. Et c'est pendant le trajet qu'elle m'a appris la disparition de son mari. Et elle m'a paru alors croire que M. Bessarabot avait été rejoindre sa maîtresse à Évian. Vous connaissiez M. Bessarabot? Non, je ne l'ai jamais rencontré chez ma marraine. Mais celle-ci vous avait-elle fait des confidences? Oui, elle m'avait mis au courant du dissentiment qui régnait dans le ménage. Elle s'est même plainte à moi de la brutalité de son mari à son égard. Elle m'a également affirmé que son mari ne lui donnait pas d'argent, ce qui l'avait obligé, pendant la guerre, à soulever une des chambres de son appartement du Square La Bruyère. Est-il vrai que Madame Bessarabot donnait des séances de magie? Oh, elle s'intéressait beaucoup aux sciences psychiques. Aussi a-t-on fait courir le bruit que l'on célébrait chez elle des messes noires, mais c'est absolument faux. L'autre ami de Madame Bessarabot, M. Réginald Chapelot, président d'un cercle catholique littéraire, qui avait fréquenté pendant quelque temps le salon de Hera Mirtel, disait aux enquêteurs: Madame Bessarabot m'avait demandé de faire une conférence chez elle. Comme je savais qu'elle recevait des gens de qualité, j'acceptais. Je m'aperçus alors que ses théories n'étaient pas en rapport avec la programme de mon cercle. Cependant, je continuais à me rendre aux réceptions de Madame Bessarabot, où j'étais d'ailleurs toujours fort bien reçu. Je dois à la vérité le dire que dans l'après-midi du vendredi, jour du crime, je trouvais Madame Bessarabot et sa fille très nerveuses. Elles me donnèrent l'impression qu'elles avaient de graves soucis. Malgré tous leurs efforts, elles ne parvenaient pas à se dissimuler à leurs invités. Oh, je fis part de cette impression à une de mes amies, femme de lettres, qui avait assisté à la réunion. Elle fut de mon avis. Pourtant, lorsque j'appris que Madame Bessarabot avait tué son mari, j'en demeurai stupéfait, car jamais je n'aurais pu penser un seul instant que cette femme était capable d'un pareil geste. Sans doute, Monsieur Bonin, se jugeant suffisamment documenté, allait-il procéder à un nouvel interrogatoire des inculpés? Pas encore. Tenant avant tout à réunir tous les arguments pouvant faciliter la tâche ardue qui lui avait été confiée, il donnait mandat à M. Fornelic, commissaire à la police judiciaire, de se rendre square La Bruyère et, en présence de Madame Bessarabot, de procéder à de nouvelles investigations dans l'appartement du crime. Lorsque, le lendemain, l'inspecteur principal Bethuel et le brigadier chef Chagnot venaient chercher dans sa cellule Madame Bessarabot, qui avait été prévenue de leur visite, ils la trouvaient habillée de pied en cap, maquillée, comme si elle se préparait à aller assister à une réunion mondaine. Elle les accueillit avec son plus gracieux sourire et demanda simplement: Est-ce que ma fille vient avec nous? Non, madame, répliqua monsieur Bethuel. Oh, je le regrette, dit-elle, car j'aurais été bien contente de l'embrasser. Et d'un pas allègre, flanquée de ses deux gardes de corps, elle gagna la voiture qui allait la transporter square La Bruyère. On eût dit qu'elle n'avait pas conscience du crime qu'elle venait de commettre, ni des responsabilités qu'elle avait encourues. Pour un rien, elle se serait posée en justicière.